Je voudrais que ce cours de ce matin, plus exactement cette méditation, pour nous préparer à la Pentecôte, elle entre un peu dans tout ce que nous avons essayé de faire pendant ce temps pascal pour nous préparer à la Pentecôte. J'ai beaucoup insisté pendant cette année que c'est la Pentecôte de cette année du jubilé, de la rédemption, puisque le pape qui a décidé que ce jubilé commence avec l'Annonciation va s'achever avec la fête de Pâques. Donc c'est la seule fête de Pentecôte que nous avons à célébrer pendant cette année du jubilé de la rédemption. Et vous savez avec quelle solennité le pape a voulu annoncer ce jubilé. Il l'a déjà dit à beaucoup, à Dumontin et à d'autres, dans l'Église, la grâce du jubilé, c'était une grâce à la fois qui unissait très fort au Saint-Père, qui unissait les chrétiens entre eux, et qui leur faisait prendre conscience davantage de ce grand mystère de notre vie chrétienne, que depuis que Jésus est venu sur la terre, depuis la Pentecôte, nous avons su une grâce, et ce n'est pas une exception, c'est pour nous tous. Donc nous savons que nous devons vivre la vie éternelle. Donc c'est l'Église de la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, des prophètes pouvaient avoir l'esprit de la vie éternelle. Mais le message qu'ils donnaient, c'est un message pour annoncer quelque chose qui était dans le temps. Nous, nous savons, et par les sacrements, par l'Eucharistie, c'est pour ça que Saint-Luc, c'est bon, de façon tout près de l'Eucharistie, tout près de Jésus, nous savons que c'est Jésus dans l'Eucharistie qui préside. Mais c'est Jésus qui est près de son Père, et qui descend près de son Père pour nous préparer à son retour. Mais cette vie éternelle que nous avons tous à commencer, nous la vivons dans le temps. Et nous savons très bien que pour être tout à fait équilibré comme chrétien, et c'est là que nos pauvres nous apportent beaucoup, il faut à la fois avoir très fort le sens. Il faut vivre dans l'instant présent, parce que comme dit saint Jean de la Croix, il n'y a que dans l'instant présent que nous rejoignons l'éternité. Ce n'est pas dans l'imagination que nous rejoignons l'éternité, ni dans le passé, ni dans l'avenir. C'est pour ça que plus le bon Dieu nous demande de nous sanctifier, plus il nous demande de lui abandonner le passé, de lui abandonner l'avenir, et de vivre dans l'instant présent. Parce que ce n'est que dans cet instant présent et par cet instant présent que nous pouvons être en lien avec les personnes divines. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est un mystère d'un présent éternel. Ce n'est pas un temps éternel, mais c'est un présent éternel, mais qui a une plénitude, comme dit saint Jean de la Croix, il dit que toutes les perfections du temps sont dans ce présent éternel. Mais alors, donc, un chrétien, il faut qu'il ait très fort ce sens de l'instant présent. Mais d'autre part, il faut qu'il sente en même temps que par cet instant présent, il a sanctifié le temps. Et que c'est par le temps qu'il atteint l'espace. Et l'année du jubilé, c'est justement l'Esprit Saint qui nous pousse à sanctifier le temps. Et comme le pape a présenté ce jubilé comme un pont entre le jubilé de 1975, où Paul VI, très fort, avait insisté, c'était le jubilé qui devait à la fois faire vivre Vatican II, mais plus en profondeur, et qui appelait tous les chrétiens de dire, au fond, tout ce que le démon a cherché après Vatican II, quelquefois par ceux qui avaient pu être appelés comme experts, mais qui, au fond, avaient encore quelque chose d'humain, surtout quand ce n'était pas les évêques, qui, eux, étaient plus davantage inspirés par le Saint-Esprit. Les théologiens, les spécialistes, les experts, bon, qui pouvaient quelquefois mêler leurs idées propres, hein, et où ils avaient pu être instruments de Dieu. Alors, au fond, le pape avait voulu que, en 1975, le jubilé reprenne en quelque sorte en profondeur un renouvellement de l'Église, en vivant plus profondément le Vatican II comme le Saint-Esprit le voulait, et non pas comme les hommes pouvaient l'interpréter. Notre pape actuel insistait que c'était le pont et la préparation du jubilé de l'an 2000, avec tout l'inconnu, maintenant abandonné à Dieu, de qu'est-ce que sera le jubilé de l'an 2000. Donc, pour reprendre les expressions même du pape, je pense que c'est très bon d'en prendre conscience ensemble. Et pour nous, vous voyez, surtout ici, au fond, nous allons vivre la fête de la Pentecôte plus dans l'humilité que jamais, en un sens. Parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui sont partis à Sommerlieu. Alors là, il y a un grand rassemblement pour la Pentecôte des pauvres. Il y en a d'autres qui ont été à Paris Monial pour les prises d'habits, en particulier à l'île de Merville et d'autres. Et puis il y a un tout petit troupeau qui est resté ici. Et puis il y a des amis qui sont venus passer, au fond, qui ont pensé qu'il y avait encore une grâce pour vivre la Pentecôte ensemble à Trelew. Alors, nous avons à savoir que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il a été d'abord donné aux personnes. La Pentecôte la plus importante, c'est la Pentecôte où il y aura des plus pauvres, il y aura des personnes qui recevront le plus au Saint-Esprit. Vous voyez, là, ce mystère, vous voyez, de cette Pentecôte de cette année, je pense qu'il faut tâcher de le vivre très fort. Alors, pourquoi est-ce que je ne fais qu'un cours? Il y a des raisons matérielles, parce que c'est pas trop si votre famille gère du temps. Il y a un petit groupe qui doit venir, je ne sais pas trop comment on va s'arranger l'après-midi. Mais à travers les circonstances extérieures, il faut agir de voir comment le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il veut que nous les interprétions. J'avais d'abord pensé faire une espèce de cours magistral sur toute la théologie du Saint-Esprit, résumer un peu. Et puis il m'a semblé que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas tellement le jour de faire une théologie du Saint-Esprit. C'était plutôt le jour où tâcher le plus près possible, le plus humblement possible, en nous disposant pour la vivre de la façon la plus mystique, vivre la sagesse infuse que donne le Saint-Esprit. Alors il m'a semblé que c'était mieux qu'un cours où nous nous efforçons, comme c'est toujours notre cours de l'après-midi, c'est le matin. Aujourd'hui, de nous préparer pour vivre le plus intensément notre vie spirituelle sous l'emprise de l'Esprit-Saint. Puisque toute notre théologie spirituelle ici, nous tâchons de la faire très très fort à la lumière du Saint-Esprit. Je pense que pour tâcher de bien vivre dans ce sens, cette fête de la Pentecôte, il faut nous rappeler que Paul VI, à la fin de sa vie, quand certains théologiens étaient déjà comme à prévoir un nouveau concile, un autre concile qui achèverait le dernier concile, Paul VI dut insister en disant « Vatican II a voulu tout centrer autour de notre Seigneur » et de présenter l'Église essentiellement autour de Jésus. Et il a dit, ça doit préparer, si la théologie a dû faire des approfondissements, c'est dans l'approfondissement du mystère du Saint-Esprit. Et c'est très frappant de voir que depuis Jean 23, combien tous les papes insistent. Jean 23, c'est un printemps qu'il présentait. L'autre pape, c'est de montrer que le Saint-Esprit agit de plus en plus. Et pour ça, il est bon tout de suite de nous en rendre compte. C'est que comme, si vous avez bien écouté les récits des actes des apôtres, que l'Église nous a fait lire pendant tout ce temps pascal, qu'est-ce qui est très frappant, on voit les témoins du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Ils se rattachent toujours à Jésus, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Ils sont les témoins de cela. Mais c'est toujours pour montrer que le Saint-Esprit se magnifie surtout ou dans le pardon, ou au milieu des persécutions, ou au milieu des souffrances. Alors, je vous l'ai souvent dit, mais je crois qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous faire encore mieux comprendre. Cette phrase de Saint Paul, qui va être notre lumière. Quand Saint Paul dit, là où le mal abonde, il faut que le chrétien ait la certitude que la grâce surabonde. Nous sommes à une période où le Saint-Esprit agit extrêmement en profondeur. Et un des signes, c'est justement, au fond, les guerres, les révolutions, au fond, tout ce qui extérieurement montre comme un déchaînement du mal, du péché. Nous, comme chrétiens, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Nous avons à être des témoins de l'espérance dans l'Esprit Saint. Alors, cette lettre de la Pentecôte, donc il faut qu'elle tienne une très très grande place pour nous. Vous voyez, parce que c'est Paul VI qui l'a déjà indiqué. Et si on regarde Jean-Paul II, je dirais qu'il va encore plus dans ce sens. Et une des grâces de ce pape, c'est d'être un pape qui directement, on sait, consulte et utilise dans son encyclique sur Dieu riche en miséricorde, on sait que ça semble, enfin, c'est tout ce que Sœur Faustina avait reçu en révélation, que quand le pape était archevêque de Cracovie, au fond, il s'était beaucoup occupé de son procès de béatification. Quand il a été pape, il a voulu faire passer au plan de l'Église universelle. Et vous savez que quand Paul VI avait été à Fatima, il n'avait pas voulu voir en particulier Sœur Lucie, parce qu'il pensait que c'était, il fallait mieux que ce soit par l'évêque. Enfin, Jean-Paul II a voulu la voir longuement seule. On sait que constamment, le pape reçoit les gens qui ont reçu des grâces très particulières de Dieu et que l'heure est venue, en quelque sorte, pour lui, savoir que pour pouvoir remplir son rôle de pape, il ne faut pas seulement qu'il soit un pape très spirituel, il faut que ce soit un pape qui, par lui-même ou par tous ceux qui sont proches, recourt à toutes les richesses de la mystique de l'Église. Donc, le Saint-Esprit, il faut que nous vivions cette fête d'une façon vraiment extraordinaire, mais dans le caractère tout à fait ordinaire, c'est-à-dire de façon très cachée. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, il se donne, quand il se donne en personne, et c'est là le don d'Esprit Saint par excellence, c'est toujours très caché. Alors, je voudrais tout d'abord, vous voyez, notre pape actuel, c'est très très mystérieux quand on tâche d'approfondir le message qu'il a donné à l'Église. Vous savez qu'il aime beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas, c'est tout l'aspect avec Saint François d'Assise, de toute la prédication, lui a sainte prédication. Bon, avec saint Ignace, on a tous les exercices de saint Ignace. Bon, il parle énormément de Saint-Louis-Marie Guillaume Montfort, au fond, qui dit qu'il a joué un grand rôle dans sa vie, qui rappelle continuellement sa doctrine, justement, dans ce sens que le Saint-Esprit donne aux pauvres et aux petits. Il a été formé, il ne craint pas de le rappeler sans cesse, avant tout par saint Jean de la Croix. Vous voyez, et au fond, on sent très bien qu'il y a un approfondissement de la vie mystique de l'Église qui est demandé plus que jamais. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut que nous tâchions bien voir ce que c'est que cette fête de la Pentecôte. Il y a dans l'Église, puisque l'Église nous apprend, et nos pauvres nous font connaître, parce qu'ils sont très sensibles au temps liturgique. Je vous avoue que près d'eux, je me fais reprendre ce que, comme religieux, déjà très fort, parce que toute la vie religieuse sanctifie le temps, d'abord, et puis les lieux. Mais nos pauvres ont un sens très simple, mais un sens du temps liturgique très fort. Dans l'année liturgique, il y a trois grandes fêtes. Il y a la fête de Noël. C'est la fête du Père qui nous donne son Fils sous la forme d'un tout petit. C'est pour ça que Marie est très forte à la mère en même temps. Et par là, ce Père qui apparaît, qui est comme une mère. Il y a la fête de Pâques. Alors, c'est le mystère du Fils, à la fois sous le double aspect du Fils, si vous voulez, dans sa mort et sa résurrection. C'est le mystère pascal. Et puis, la fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est à la fois la fête du Saint-Esprit et la fête de l'Église, la naissance de l'Église. Je pense que pour en voir toute la dimension, il faut voir cette fête de l'Église dans tout ce contexte de la fête du Saint-Esprit. Et c'est plus nécessaire que jamais pour nous de demander au Saint-Esprit lui-même de nous faire découvrir ce mystère du Saint-Esprit. Et je vous le disais il y a quelque temps, c'est très très curieux. Et plus on s'aperçoit que plus on a à approcher des gens qui sont loin de Dieu, même des athées, et les athées de notre temps. Plus il faut soi-même avoir pénétré intimement dans les mystères de Dieu. Et pour être un apôtre des athées, au fond, on le sent absolument la nécessité d'être extrêmement uni à Dieu. Parce que c'est dans les expériences divines, c'est dans la vie mystique, c'est là qu'on découvre les points sur lesquels on peut encore les aborder. Vous voyez, si on n'est qu'un chrétien de devoir, alors on se heurte complètement. Dirons-nous, nous avons notre conception du devoir, vous avez la vôtre, tu n'as aucun point de contact. Si on est simplement un chrétien un peu spirituel, on doit se défendre en partie. Pour être un apôtre doux, ferme, convaincant, il faut véritablement être l'apôtre qui vit pleinement. Au fond, il faudrait être soin. Or, à notre époque, c'est un fait, nous sommes tous, à bien des moments de notre vie, en contact avec des athées. Au moins des gens qui disent agnostiques. Et nous avons à être des apôtres pour eux. Alors, nous avons un besoin du Saint-Esprit plus fort que jamais. Alors, quand je dis c'est la fête du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très extraordinaire. Parce que à beaucoup de gens, on ne peut pas parler. Il y a encore des gens qui ne croient pas en Jésus, à la divinité de Jésus, même si Jésus, ça ne leur dit rien, comme ils disent. Il y a des gens qui ne croient pas tellement à Dieu, surtout sous l'aspect d'un père, providence paternelle. Mais tout homme qui vit sur la terre a encore un certain sens de l'esprit. Vous voyez ? Et tout homme qui vit sur la terre, même s'il ne croit plus du tout à la valeur de l'intelligence, croit tout de même encore qu'il va y avoir une sorte d'intuition. Enfin, l'esprit sous la forme poétique, ou l'esprit sous la forme d'une amitié, d'un, c'est encore à ça, il est encore sensible. Bon. Or, vous voyez, ça peut être le biais pour s'approcher du Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que nous avons, à la fois pour notre propre vie personnelle et comme apôtre, très très particulièrement, à demander au Saint-Esprit qu'il nous fasse entrer dans ce mystère du Saint-Esprit. Vous voyez, la personne du Saint-Esprit. Vous voyez ? Si nous voyons cette fête comme fête du Saint-Esprit, d'abord, il faut voir comment dans la Genèse, dès le début, c'est présenté comment l'Esprit plane sur les eaux à l'origine. Et tous ceux qui ont suivi un petit peu les cours depuis quelques années, c'est tout le but, et tâcher de montrer en quelque sorte que de plus en plus, il semble qu'à la lumière même de ce que disent les plus grands savants, on doit prendre avec plus d'attention tout ce qui est dit dans la Révélation, comme quoi Dieu n'a pas créé un univers simplement pour que les êtres spirituels soient des créatures servantes, mais pourquoi ses fils et ses filles, pour qu'ils puissent leur donner un enseignement. Et donc que finalement, l'univers semble avoir été créé par les trois personnes divines, avant tout pour que le Saint-Esprit puisse se donner, pour que le Saint-Esprit puisse inspirer cet univers, puisse le mouvoir, puisse en quelque sorte l'accomplir. Nous avons eu il y a quelques jours une conférence par le docteur Lejeune. Bon, on n'a pas entendu grand-chose, mais enfin tout de même des petites bribes. Bon, et on a remarqué que lui, on sait très bien, parce que son sujet d'émerveillement, c'est le cerveau de l'homme. Bon, et qui montrait comment, au fond, il a été fait par Dieu pour être infiniment plus parfait que les ordinateurs, même de la NASA, par exemple. Et il me semble, d'après ce qu'il disait, quand j'en parlais un petit peu après avec le père Gilbert, qu'il montrait en même temps, parce qu'il est très profondément croyant, et tâche de voir toujours ses connaissances, pas du tout en mettant entre parenthèses sa foi, cet univers a été fait comme pour un ordinateur suprême, mais il me semble que cet ordinateur suprême, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un ordinateur mécanique, c'est un ordinateur d'amour, le mystère du Saint-Esprit. Et là, il m'a semblé, d'après ce qu'il disait, si on voulait prolonger un petit peu sa conversation, c'est que le cerveau de l'homme est fait de telle manière. Et ce cerveau qui se continue avec la colonne vertébrale, avec la moelle épinière, bon, qui fait que le Saint-Esprit, vous voyez, comme le Père de Haut aimait beaucoup le montrer, quand il montrait l'art du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, comme artiste divin, aimait continuellement réaliser les œuvres les plus divines avec les moyens les plus pauvres. Vous voyez, le Père d'Eau aimait montrer comment un grand musicien, par exemple, pouvait aimer jouer un morceau splendide sur son violon et puis briser qui ne gardait plus qu'une corde et puis qui rejouait le morceau encore mieux. Il y a comme une force de l'artiste qui arrive à tirer des moyens les plus pauvres, les plus petits, quelque chose de plus fort. Au fond, dans l'Esprit Saint, ce que nous voyons nous constamment ici, chez les pauvres, chez les agonisants, chez les plus petits enfants. C'est souvent là qu'on voit de façon visible l'action la plus forte du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, voyez, le Saint-Esprit, quand nous le fêtons, c'est comme le cœur du monde, c'est comme le mystère le plus grand de toute la création, et surtout pour nous, dans le cours de notre année, nous l'avons vu, toute cette histoire de la création, ça, c'est absolument certain, elle est inspirée par le Saint-Esprit. On ne peut pas la comprendre si on ne regarde pas le Saint-Esprit. Autrement, continuellement, il y a des choses qui apparaissent absolument, on n'y comprend rien. On a un tout petit peu de lumière, c'est quand on se passe au point de vue du Saint-Esprit. Mais nous savons, voyez, et le pape y insiste beaucoup, c'est pas quand il dit qu'actuellement, une des tâches de l'Église, c'est de préparer le retour de Jésus. Bon, et après la fête de l'Ascension, nous en avons très fort conscience. Nous savons que si le Saint-Esprit planait dès le début, et que dans la Genèse, il y a quelque chose de très émouvant quand on voit qu'il plane sur les eaux, ce lien de l'air et des eaux avec le Saint-Esprit, le premier signe, en quelque sorte, du Saint-Esprit. Mais nous savons très bien que si c'est donné de la façon la première, en personne, à Marie, à l'Annonciation, si comme nous allons le voir quelques instants, à la Pentecôte, c'est à l'Église qui s'est donné, nous savons qu'il va demeurer, au fond, jusqu'à la fin des temps, mais nous savons que la manifestation la dernière manifestation du Saint-Esprit, c'est à la fin des temps. Oui, la fin des temps, nous voyons surtout comme le retour de Jésus. C'est vrai, c'est le retour de Jésus, mais en même temps, c'est à ce moment-là que de la façon la plus plénière et la plus visible, le Saint-Esprit soit manifesté. C'est la révélation plénière du Saint-Esprit, c'est à la fin des temps. Et alors là, ce n'est plus, le Saint-Esprit ne se servira plus de l'eau, pas plus sur l'eau, c'est, je suis venu apporter le feu sur la terre. Voyez, au fond, c'est là que tout le mystère le plus profond de l'Esprit Saint apparaîtra. Voyez, alors, quand nous fêtons le Saint-Esprit, voyez, c'est toute cette histoire de l'univers si mystérieuse. C'est ça la louange de l'Esprit Saint. Et notre foi est pour nous notre espérance. Et qui fait qu'en fait, vous voyez, si beaucoup de gens de notre époque sont terrifiés depuis qu'on a employé la bombe atomique, depuis qu'on découvre ce que c'est que les radiations de l'atome, depuis qu'on ce feu extérieur qui peut être déclenché, pour nous chrétiens, voyons comme un signe. Et tout cela, ce n'est que le signe d'un feu intérieur infiniment plus grand. Il y a, dans la prédication du Père de Haut, que une plus belle, c'était sur le Sacré-Cœur. Et c'était quand le Père de Haut, il était du Nord. Et quand, je me rappelle que quand il passait, il était toujours très frappé, quand il passait dans les pays des mines. Quand il disait, c'était le moment où les mines, le Nord était une région pilote de la France, et en particulier très fort avec ses mines. Et alors le soir, quand on voyait les hauts fourneaux, tous ces coins des mines, il y avait une espèce d'illumination extraordinaire. Et le Père de Haut, quand il parlait du cœur de Jésus, il montrait comment c'était ce haut fourneau, en quelque sorte, du Père, au fond, du Saint-Esprit. Vous voyez, insistant sur ce feu intérieur. Vous voyez, si dès le début, si si le démon, bah c'est lui qui a déclenché la première explosion, si vous voulez, au fond par son imprudence, par sa présomption. Donc l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour le punir, c'est lui qui l'a établi. Hein, et c'est les ténèbres extérieures en même temps que le feu extérieur. Hein, mais dans les desseins de Dieu, Jésus est venu nous faire comprendre qu'il ne faut pas, pour comprendre le mystère du feu, rester à ce feu extérieur. Hein, il y a tout un feu intérieur, au fond, qui est infiniment plus mystérieux. Hein, et que quand saint Jean, dans l'Apocalypse, parle des cieux nouveaux et des terres nouvelles, bien, ce sera justement là que serait la grande manifestation de l'Esprit Saint. Bon. Ceci, c'est pour un petit peu que cette fête de la Pentecôte, voyez, nous la voyons dans son contexte eschatologique. Mais c'est très doux pour nous, voyez, parce que c'est ça qui nous donne l'espérance. Mais une espérance, alors pour vous le dire tout de suite, voyez, une espérance. Il faut demander à Marie très fort qu'elle nous la prête. Parce que le mystère de l'Annonciation, si le pape a voulu commencer cette année par l'Annonciation, il est plus actuel que jamais. Si Marie qui a commencé à avoir peur au moment de l'Annonciation, si après qu'elle a posé sa question à l'ange, l'ange lui a répondu, Marie a commencé à avoir l'espérance. C'est-à-dire qu'elle, l'Immaculée, elle maîtrisait facilement son imagination et sa mémoire. C'était le cœur qui dominait toujours. Elle n'aimait même pas. Il était comme immédiatement. Mais nous avons à faire une attention extraordinaire. Parce que dès que nous laissons notre imagination, notre mémoire, quand nous lisons même l'Apocalypse, quand nous lisons les récits sur les cieux nouveaux et les terres nouvelles, au fond, s'emparer un peu de nous, alors, il y a un certain aspect de terreur. Le Saint-Esprit, c'est un tel mystère, que tant que nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit en personne ne peut se donner à nous que si nous aimons ce minuit de la foi, comme Marie, et s'est enfoncé dans le minuit de la foi, et dans cette pauvreté, et dans cette faiblesse, et en même temps ces souffrances, et même cette mort de l'esprit et de la raison, pour que le cœur ressuscite. Vous voyez, c'est très très important cela. Et parce que, au fond, actuellement, il y a un triple danger pour le cœur. C'est important de le voir. Vous voyez, il y a un danger immatérialisé. Alors, c'est bien évident. Bon, d'une intelligence qui ne croit qu'à la matière, bon, et puis qui en merveille de la façon dont on utilise la matière. Bon. Il y a un autre danger, hein, qui est de laisser son imagination et sa mémoire un faux idéalisme, hein, ou plutôt un idéalisme. L'idéalisme, c'est pas... Bon. Alors, à côté de la matière, bon, se laisser prendre par un idéalisme complet. Hein, bon, et puis, vivre alors dans l'imagination, la mémoire. Alors, vous pouvez faire toutes les utopies que vous voulez, vous pouvez faire toutes les idéologies que vous voulez. Hein, ça, c'est un danger très grand. Hein, vous voyez, et il ne faut pas oublier que les sciences humaines, les sciences sociologiques, si elles ne sont pas très bien maniées et revues par un point de vue chrétien, hein, bon, on risque de dépasser, de développer tout cet aspect, parce que le rêve, tout ça, ça peut, au fond, on peut vivre dans un monde fantastique qu'on aime cultiver, qu'on aime développer dans tous les sens, hein, et où le démon, au fond, maintenant, on pourra peut-être être un espèce de génie, si vous voulez, infernal, pour faire des écrits qui auront peut-être un énorme succès à la télévision et partout ailleurs. Mais non, on finira dans une maison de fous, mais en même temps. C'est pas si rare que ça. Vous voyez, bon, là, c'est un second danger. Vous voyez, mais c'est très terrifiant pour l'homme quand il voit que En fait, c'est vrai, un danger matérialiste, un danger d'idéalisme terrible qu'il y a chez lui. Et puis encore un troisième danger, c'est une espèce d'idéalisme de gnose. Vous voyez, de tous les gens qui croient à la révélation, qui croient à tout ce que les mystiques disent, bon, mais qui restent au plan de la spiritualité, d'ailleurs qui cherchent à développer cela, à tâcher de trouver des explications uniquement au point de vue de la spiritualité, de l'esprit. Vous voyez, alors qu'ils tombent dans l'ésotérisme, au fond, la gnose, le danger de la gnose est plus grand que jamais aussi à notre époque. Alors, qu'est-ce qui permet d'échapper à ces trois dangers, mais en même temps, de croire, de savoir que la matière existe, de savoir que notre imagination, notre mémoire existe, vous voyez? C'est le point de vue mystique. Mais la mystique authentique, celle de Saint Jean de la Croix. Vous voyez, la mystique authentique qui sait que Dieu nous a révélé ses mystères dans des noms, Dieu nous a révélé ses mystères grâce à des signes, comme sont les sacrements, très humbles, très pauvres, qui dépassent ceux de l'Ancien Testament par la simplicité et l'humilité, comme est l'Eucharistie, comme le sacrement de baptême, comme sont tous les sacrements, et où savoir que ces signes, ces noms, il faut s'y accrocher très fort, pour ne pas tomber dans un espèce de mysticisme, au fond, vous voyez, où il n'y a plus rien de ferme, où on ne puisse plus s'accrocher à rien. Ou alors la foi et l'espérance s'évanouissent. Vous voyez, mais où en même temps Dieu nous demande dans son amour, vous voyez, ces sacrifices très très forts de l'imagination et de la mémoire. Vous voyez, au fond, où nous avons toujours à nous mortifier. Vous voyez, et à nous mortifier, plus nous avançons, plus il faut faire ces mortifications. Et que c'est indispensable pour rester équilibré. Vous voyez, c'est une mortification de l'imagination et de la mémoire. Vous voyez, parce que plus on est cultivé, plus on a d'imagination, de mémoire. Il ne faut pas croire que la culture, nécessairement, est un moyen de au fond, que nécessairement, ça nous donne comme des capacités nouvelles pour une vie divine. Vous voyez, le Père de Haut aimait toujours me répéter cette parole. Quand il était jeune séminariste, son directeur de séminaire lui avait dit, quand le Père Dehaut, qui était très artiste, avait dit, mais là, quelle est la place qu'il a dans ce christianisme? Il dit que supérieur de Saint-Sulpice, lui avait dit, où c'est l'instrument de l'apostolat, où c'est la matière du sacrifice? Et le Père Dehaut disait, ça doit être d'abord la matière du sacrifice pour être ensuite l'instrument de l'apostolat. Et en un certain sens, il faut reconnaître que pour entrer vraiment dans une vie intérieure totale avec le bon Dieu, bien, tout ce qui est culture, ça joue un très grand rôle, mais comme une matière de sacrifice. Saint Jean, saint Thomas d'Aquin, à la fin de sa vie, au fond, il disait, mais tout ce que je écris, c'est de la paille, en comparaison de ce que je pressens. Ces bibliographes, quelquefois, enfin ceux qui pas les premiers ne faisaient pas de commentaires. Maintenant, mais les autres, attends, on a dû, saint Thomas d'Aquin, on voyait comme c'est un saint, comme il est humble, comme il est, au fond, toute cette somme merveilleuse, je considère que c'est de la paille. Enfin, vous voyez, comme quand au début de la somme, il disait ça, c'est fait pour les commençants. Moi, je vous avoue que ça m'est très doux, ces paroles de Saint Jean de la Croix, de Saint Thomas d'Aquin. Et au fond, c'est ça qui c'est nécessaire pour que Saint Thomas d'Aquin, je dirais, on en voit toute la dimension. Parce qu'on voit que Saint Thomas d'Aquin a vécu aussi, surtout à la fin de sa vie, la mystique de Saint Jean de la Croix. Et que la mystique de Saint Jean de la Croix, elle est même pour tous. Et que saint Thomas d'Aquin n'est pas resté toujours uniquement aux premières prières qu'il a pu composer quand il écrivait le contrat gentilaire, mais qui a eu dans sa vie intérieure tout un progrès. Et que, au fond, que le bon Dieu lui a demandé, au fond, ces sacrifices qu'il demande à tout le monde, mais qui, à notre époque, sont demandés beaucoup plus, parce que pour garder son équilibre, on doit les faire. Autrement, on sera tenté de se dire après tout, est-ce que je ne suis pas un peu un malade? Parce qu'au fond, on aura comme des moments, quelquefois d'angoisse, qui pourront devenir tellement forts, qu'on pourra se dire, mais enfin, après tout, est-ce que je ne suis pas malade? C'est vrai. Quand on est réaliste dans notre monde actuel, il y a des sujets d'angoisse terribles. Et si on cultive ces angoisses, et si on pense que, en quelque sorte, en tâchant de voir tout l'univers, mais d'une façon existentielle, donc avec son cœur aussi, vous voyez, en vibrant avec son cœur, il n'est plus à nos dimensions. Alors, on se rend compte, vous voyez, comment Dieu peut nous demander, à des moments, justement, de faire des sacrifices. D'ailleurs, le rêve, on ne doit jamais rêver. Pas une situation. Bon, le Saint-Esprit nous donne des inspirations beaucoup, beaucoup plus profondes quand nous sommes très, très, très maîtres de nos rêves. Les inspirations du Saint-Esprit ne viennent pas tellement dans le rêve, pas du tout. Au fond, le Saint-Esprit n'est pas rêveur du tout. Vous voyez, c'est... Et il nous fait découvrir, au contraire, avec beaucoup plus d'acuité, les petites choses qui sont des signes de Dieu, quand nous ne sommes pas rêveurs. Ça, il y a un danger actuel. Terrible d'être des rêveurs éveillés, d'être des rêveurs vivants. Au fond, parce que la télévision qu'on veut ou non enveloppe le rêve en nous. Parce qu'il y a une quantité de choses qui développent le rêve en nous. Vous voyez? Mais je crois que c'est pas, vous voyez, ça se rattache au Saint-Esprit, tout cela. Parce que, vous voyez, le Saint-Esprit nous est donné pour faire cet équilibre par les vertus théologales, et les vertus théologales unies par le don de sagesse. C'est ça le grand mystère. Encore un petit mot à propos du Saint-Esprit. La Pentecôte, donc, c'est la fête du Saint-Esprit. À notre époque, on parle beaucoup de fêtes, on parle beaucoup de célébrations. Vous voyez, Jean a écrit un livre sur la communauté, lieu de fête et pardon. Donc, ce mot fête, ce mot célébration, tant qu'il faut tâcher de le mettre un petit peu au point aussi. Vous voyez, quand vous voyez ces trois grandes fêtes de l'Église, il est très très doux de voir, vous voyez, Noël, c'est la fête, c'est la naissance. Dans toute famille, c'est vrai, la naissance, c'est un très grand événement humain. Toute naissance, c'est un grand événement. La fête de Pâques, vous voyez, c'est la mort en vue de la résurrection, c'est vrai, la mort, le martyr, les agonies, c'est aussi enfin, des événements, des moments importants de notre vie. Mais quand les gens parlent de la fête, ils disent, mais il y a encore autre chose. C'est un peu dans le même sens, on dirait, on a besoin de rêver. On a besoin d'imaginer. Et c'est vrai qu'en un sens, une certaine imagination, un certain rêve, peut-être nécessaire, par exemple, avant de réaliser quelque chose. Vous voyez, j'ai mis des limites. Il faut qu'il y en ait des limites, il faut qu'on en soit très maître. Vous voyez, mais c'est sûr que notre imagination, notre mémoire, joue plus de rôle jamais dans notre vie. Et la fête, je dirais comme telle, vous voyez, c'est un petit peu un élément qui intervient au plan social. Vous voyez, au fond, partout, quand il y a des villes, Exemple, au fond, l'homme a dépassé l'état familial. Il a besoin de fêtes. On fait la fête de la victoire, enfin, on fait des fêtes différentes. Les gens vont au Panthéon pour la fête, les autres vont ailleurs, vont à Notre-Dame. Bon, mais on a toujours besoin, en quelque sorte, de fêtes. Vous voyez ? Bon. Ce qu'il y a de merveilleux avec la Pentecôte, c'est que Jésus, le Père, ils connaissent parfaitement notre tempérament, nous ont voulu nous donner aussi une fête. Mais la fête du Saint-Esprit. Et pas seulement la fête du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est fêté dans cette fête, mais je dirais parce que c'est lui qui l'a organisée. C'est lui qui l'a inspirée. Il a inspiré tous les auteurs de cette fête. Ça a intervenu dans la diaspora, partout. Et tout le peuple juif avait été en vue, non seulement pour qu'il y ait un petit groupe à Jérusalem, mais qu'il y en ait qui soit à travers toute la diaspora, pour que, à cette fête des temples, de l'année où Jésus est mort, au fond, ces juifs viennent là. Ils étaient tous pour une fête. Cette fête a été inspirée par l'Esprit Saint. Mais c'est le Saint-Esprit aussi qui l'exécute, qui va trouver, si vous voulez, les moyens. Il est parlé en langue. Enfin, ça va jouer un grand rôle dans cette fête. Vous voyez, au fond, et puis en même temps, on voit un petit peu les autres aspects. Et puis surtout, c'est lui qui achève tout. Parce que c'est en même temps le Saint-Esprit qui est au plus profond des cœurs, mais après et dans, par cette fête même, un changement, une force dans les cœurs extraordinaire. Vous voyez, les fêtes de la terre, qu'est-ce qu'elles sont terribles, moi, ce qui me dégoûte souvent des fêtes purement profanes, c'est d'être dans les trains le lendemain des fêtes. Parce qu'au fond, les gens sont... Le lundi matin, souvent après le dimanche, les gens qui ont fait la fête le dimanche, on a l'impression qu'ils étaient encore un petit peu... Ils ont perdu leur force, ils se sont... Vous voyez, Saint-Augustin le disait si fort. Et moi, ça me frappe beaucoup, parce que quand je vais à Mel, quand je vais à Clermont, à l'hôpital psychiatrique, que je revois tous les anciens qu'on n'a pas pu garder. Et ils ne parlent pas des fêtes qui sont ici. Parce que, évidemment, ça ne serait qu'un sujet de souffrance pour eux. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont gardé. Là, ils n'ont plus, l'hôpital psychiatrique les fêtes qu'ils avaient ici. Et alors, à ce point de vue-là, je comprends très bien les médecins. L'hôpital psychiatrique qui me disent ne venez pas les revoir, vous êtes en train de réveiller en eux des souvenirs qui leur font mal, qui les mettent en excitation. Bon. Et alors c'est ici qu'on voit, vous voyez, l'aspect du Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui achève ses fêtes dans la Pentecôte. Parce que vous voyez Saint-Pierre, vous voyez Saint-Jean, vous voyez tous ceux qui ont été, comme ils sont transformés après. Et alors, c'est la seule fête qui a un lendemain extraordinaire, et un lendemain qui se continue encore. Vous voyez ? Et je dirais, c'est la seule fête où c'est Dieu lui-même qui a utilisé la fête, et non pas seulement la naissance et la mort, mais qui a utilisé la fête pour des desseins divins. Vous voyez ? Alors, je crois que c'est très important de voir, dans ce jour de la Pentecôte, vous voyez, cette sorte de célébration par le Saint-Esprit. Vous voyez ? Alors, je pense que nous nous sommes un petit peu préparés pour tout ça, déjà pendant tout le temps pascal. Nous avons vu la mort, la résurrection de Jésus. Vous voyez, Jésus qui appart avec ses apôtres, et puis la grande retraite en silence avec Marie. Et puis après cette grande retraite avec Marie, voilà la venue du Saint-Esprit. Et comment elle se réalise ? Il y a un premier temps, un grand vent. Vous voyez, pour Élie, ça avait été une petite brise légère. Ici, c'est un grand vent. Et ça rappelle un petit peu ce que notre Seigneur dit, pas, à la fin des temps. Bon, vous voyez, il faut qu'il y ait un grand vent. De temps en temps, il faut qu'il y ait en nous un grand vent qui enlève toutes ces poussières qu'il y a en nous. Vous voyez, au fond, quand les neiges éternelles, quand on est près du Mont Blanc, dans les grands monts, où il y a en même temps, ou près de la mer, il y a un grand vent qui passe en même temps. Vous voyez, comme ça nettoie notre imagination. Vous voyez, comme au fond, il y a vieux fantasmes, les vieilles histoires qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Vous voyez, si on a assez de santé pour supporter ce grand vent, et se laisser bien éventer de toute manière. Le bien, en quelque sorte, que ça peut nous faire. Il ne faut pas oublier que pour certaines Pentecôtes, il faut de temps en temps que le bon Dieu nous bouscule un petit peu. Vous voyez, il y a quelquefois un vent, au fond, qui vient en quelque sorte comme secouer un petit peu. Qu'on voit la Pentecôte. Puis après ce grand vent, vous voyez, ce globe de feu qui apparaît et qui se détache, vous voyez, en langue de feu ou en flamme. C'est très très mystérieux. Parce que le globe de feu, un globe de feu, il y a des feux extérieurs, ça apparaît sous forme d'une espèce de globe de feu. Au fond, maintenant, on parlerait de certains globes de feu, si nous voyons tout d'un coup dans le ciel, un moment, une espèce de globe de feu. Pendant la guerre, je me rappelle quand les bombes arrivaient, enfin, un globe de feu, mais surtout maintenant, quand on sait qu'avec la bombe atomique, bien, vous voyez que le feu, le Saint-Esprit l'utilise là. Il va l'utiliser pour la douceur. Pour une force dans la douceur. Pour moi, c'est un des grands mystères de l'Esprit Saint, mais qui risque de donner un petit peu le vertige quand, on veut toujours avec sa raison tout unifier. C'est que le Saint-Esprit n'est pas inventé dans l'Écriture. D'abord, comme cette petite brise légère. L'air que nous respirons, c'est un des chefs-d'œuvre de l'art d'amour de Dieu. La preuve, c'est que les hommes n'arrivent pas à faire un air plus pur que l'air de Dieu, mais ils arrivent à le falsifier. Et puis ensuite, le Saint-Esprit est présenté sous la forme des fleuves d'eau vive. L'eau et le Saint-Esprit, il y a un lien très fort. Et puis, le Saint-Esprit est présenté sous le signe de feu. Et les hommes n'arrivent pas très bien. L'air et le feu, oui, l'air vient ventiler le feu, l'enflammer. Mais l'eau et le feu, on ne voit pas très bien comment ça se concilie. Mais on voit en même temps que pour que le Saint-Esprit, on puisse saisir toutes les richesses de l'Esprit Saint, il faut prendre ces différents aspects. Alors, il y a ce globe de feu avec des langues de feu ou des flammes et qui expriment tous les deux des signes. Parce que il y aura la parole, et puis en même temps, il y a ces flammes, tout le monde ne parle pas. Marie, elle a dû garder le silence. Il y en a eu d'autres qui, au fond, le feu les a embrasés, les a brûlés intérieurement d'un feu très doux. Ils ont donné une présence de l'Esprit Saint très forte. C'est très bien que les gens... Il y a des gens qui ont un cœur brûlant, qui ne parlent pas, c'est eux qui donnent le plus à présent. Non, c'est un nos pauvres. C'est une grâce très très particulière du Saint-Esprit. Alors là, c'est le second temps, le premier temps. Puis, le second temps, quand ces gens qui viennent de partout se mettent à parler en langue. Et se mettent à parler en langue. Ce n'est pas le fait qu'ils se comprennent simplement dans les langues, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est que par ces paroles, voilà que il y a une unité qui se fait entre les cœurs, hein, il y a une espèce de compréhension. Ils viennent tous un seul esprit, hein, ils viennent tous un seul cœur, hein, alors qu'ils viennent de régions si différentes. Vous voyez que par les guerres, que par les déportations, leurs origines sont diverses. Vous voyez, si on faisait leur psychanalyse, au fond, on trouverait des origines très, très, très diverses. Si on faisait la psychologie sociale vis-à-vis d'eux, vous voyez, et tous ces gens qui se trouvent réunis, c'est vrai que le motif, c'est un motif religieux qui les a poussés, qui ont été bien inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez, et puis voilà que, pour le petit exemple que nous connaissons du petit groupe des 12, hein, cette petite communauté des 12, hein, qui a été tellement bouleversée, hein, qu'on voyait qu'avant, même que quelques jours avant la passion de notre Seigneur, les rivalités qui existaient entre eux, hein, comment celui qui était l'économe de ce groupe, hein, comment c'était quelqu'un qui, au fond, qui s'était laissé prendre, qui était l'instrument du déni, Judas. Et comment Saint Jean note, mais presque d'une façon un peu brutale, qu'il fallait, que Dieu le voulait, que ce soit comme ça, Dieu l'avait laissé, pour bien faire comprendre, ensuite, le miracle, le jour de la Pentecôte. Qu'on voit que, quand notre Seigneur apparaissait à ses apôtres, vous voyez, Sa présence les apaisait. Mais dès que Jésus était disparu, les apôtres nouveaux se trouvaient tout faibles. Alors, ça me semble très très important de voir, vous voyez, quelle va être l'unité nouvelle que le Saint-Esprit va établir entre ces peuples, ces gens de cette diaspora. Ce peuple dispersé, ces apôtres, tout à fait nouvelles. Vous voyez, avant la venue de notre Seigneur, vous voyez, pendant le temps pascal, c'est assez frappant quand on voit Saint-Pierre, hein, qui, après quelques jours, propose aux apôtres d'aller de nouveau pêcher. Vous voyez, il était inspiré par le Saint-Esprit. Le travail, ça contribue souvent ensemble à remettre un petit peu d'unité. Quand les gens étaient très bouleversés après un deuil, après quelque chose, une absence, au fond que, vous voyez, bon, pour se remettre, et on voit bien que la grâce ne supprime pas la nature. Au lieu de rester comme ça, tous comme ça, rien faire, à se lamenter, à laisser la tristesse. Bon, allez, vous ne donnez pas à la pêche. Allez, et puis ils vont ensemble à la pêche. Le travail les unit un peu. On a vu que la présence de Jésus, quand elle était là, les unissait. Et puis, depuis l'ascension, c'est l'absence de Jésus qui devient une grâce. L'absence physique de Jésus. Vous voyez, il y a une grâce qui va obliger justement de recourir encore davantage à l'Esprit Saint. Et c'est très frappant de voir qu'après cette absence de Jésus, mais grâce, puisque c'est voulu par Dieu, et que tout est grâce au regard de Dieu, on voit comment les apôtres se rassemblent autour de Pierre. Vous voyez, puisque c'est Pierre qui va faire l'élection de Matthias. Hein, et c'est avant la Pentecôte. Donc, on voit qu'ils se réunissent de nouveau, hein, autour de celui qui a été désigné par Jésus. Vous voyez, après le travail, c'est en vue. Et cette nomination de Matthias, c'est un premier acte d'espérance. Vous voyez, c'est que pour eux, le groupe des 12, c'est pas fini. Il y en a un qui a péché, il faut qu'il y en ait un autre qui remplace. Ce groupe des 12, au fond, le dernier mot n'est pas encore donné. Et quand Pierre choisit un pour. Vous voyez, c'est la première démarche de l'espérance. C'est comme si Dieu attendait cette démarche de l'espérance pour envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez, combien de fois chez nous, non, s'il y avait eu des esprits cryptiques là, non, hein, quand Saint-Pierre avait dit, ben, est-ce qu'on va nommer Matthias, attendez, quand le Saint-Esprit sera là, il sera assez tôt pour en désigner le douzième. Est-ce qu'il va venir pour être bien, allez, bon, suivi. Vous voyez, et bien, parce que l'espérance, c'est toujours ce que bon Dieu nous demande. Il demande de commencer quand on n'a que des toutes petites lueurs. Si nous attendons d'avoir l'évidence que tout soit, qu'on puisse faire un plan, comme dans les choses humaines, ben les apôtres n'ont rien fait du tout. L'Église a commencé comme ça, sans projet en quelque sorte, mais en étant fidèle au Saint-Esprit. Vous voyez, hein, non pas comme les œuvres des hommes, vous voyez, qui font un concours pour les différents projets, quel sera le meilleur projet. Non. Vous voyez, Saint-Pierre n'a pas demandé aux différents, faites un projet chacun, et puis on prendra celui qui a le meilleur projet. N'est-ce pas ? Il n'y a pas eu un espèce de concours. Vous voyez, on a. Bon. Alors, Saint Thomas d'Aquin dit qu'ils ont tiré au sort, hein, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu pleinement l'Esprit Saint. Vous voyez, on peut retrouver dans les mouvements charismatiques, dans les groupements, quelquefois, quelque chose qui ressemble à tirer au sort. Parce que, bon, par humilité, le bon Dieu peut toujours s'en servir, comme on le voit très bien dans l'Ancien Testament. Vous voyez, bien que pour les choses plus profondes, plus intimes, vous voyez, Jésus a donné à son Église des moyens plus sûrs. Vous voyez, par exemple, quand les évêques choisissent le pape, ils ne mettent pas tous les noms des cardinaux dans une boîte et puis en tirer un. Hein, vous voyez, le bon Dieu se sert de leur intelligence. Hein, vous voyez, il les inspire. Vous voyez, pour une vocation, vous voyez, les petites indications qui peuvent être données, les saints diront tous, ça peut être des indications, mais il ne faut jamais que ce soit le motif déterminant. Hein, parce que nous sommes dans une religion d'amour, il n'y a que le Saint-Esprit lui-même en personne. Il peut, quand nous sommes tout à fait dans l'obscurité, par sa personne, venir nous donner l'évidence, bon, c'est bien Dieu, comme il l'a fait pour dans la conversion de Saint Paul, hein, bon, constamment dans les Actes. Bon, alors nous revoyons tout ça, vous voyez, déjà dans la Pentecôte. Alors, ils sont groupés par Saint-Pierre. Et puis ensuite, et en même temps, plutôt par Marie, silencieuse en prière. Alors là, je pense que, vous voyez, cette neuvaine que nous allons finir avec Marie, cette grande neuvaine, cette grande avant la Pentecôte, vont nous arrêter une petite minute avec elle. Quelle était la prière de Marie pendant ces 10 jours? C'est avant tout, elle avait commencé dans l'action de grâce. Marie était tout à fait désintéressée. Marie, quand Jésus est remonté près du Père, il a achevé sa mission, Marie qui pensait avant tout à la gloire du Père. Bon, il y a eu une action de grâce. Marie a fêté l'ascension en action de grâce infiniment plus que n'importe qui d'entre nous. Bon, et c'est bien l'action de grâce. Parce que, et vous voyez bien, la grâce de Dieu. Bon, et quand les apôtres ont rapporté ces 2 anges qui étaient venus, bon, Marie était bien dans l'action de grâce. Marie est restée aussi en même temps dans une confiance et un abandon total. Parce qu'il y a un mystère dans cette prière de Marie. Vous voyez, elle a dû commencer dans une sorte d'action de grâce, dans la joie. Et puis, Marie a dû sentir de plus en plus, comme une nouvelle agonie, sentir sa faiblesse. Parce que Jésus n'était plus sur cette terre. Jésus était remonté près du Père. Et Jésus, pendant le temps de la Pentecôte, pendant le temps pascal, plutôt, avait fait comprendre à Marie, vivre Marie, ce mystère du monde dans lequel nous sommes, hein, où, en fait, il y a des communications lointaines, mais par télépathie, en quelque sorte, que nous appelons la télépathie. Hein, vous voyez, ce que les saints sentent si fort, on peut, dans son apostolat, suivre quelqu'un de loin, c'est tout à fait autre chose le jour de sa mort, enfin, qu'il passe près de Dieu. Hein? Et une fois qu'il est mort, près de Dieu, c'est en Jésus qu'on le retrouve. Hein? Mais avant, il y a quelque chose de très mystérieux. Hein? Il y a ce que la science découvre au point de vue des, au point de vue de la vue et de l'ouïe, hein, qu'on peut donner des images, qu'on peut faire entendre des sons, hein, mais la télévision ne nous donne pas la présence. Hein, et en même temps, par d'autres moyens profonds, plus intimes, nous pressentons que notre univers n'est pas fait simplement pour être unifié par la lumière, hein, et par le son. Mais il doit y avoir une présence mystérieuse, c'est-à-dire quelque chose au plus profond, un cœur, si vous voulez. Hein? Voyez, l'Eucharistie va réaliser cela. Mais pour que Marie puisse comprendre que l'Eucharistie, voyez, c'est maintenant le cœur du monde, hein? Que l'Eucharistie, comme sacrement, hein? Voyez, donne au monde un centre qui est un cœur. En donnant le cœur de Jésus, le cœur de Marie, parce que Marie est toujours avec Jésus. Vous voyez, il a fallu que Marie connaisse avant ce que pouvait être l'univers sans Jésus. Vous voyez, et elle, qui au moment, avant, dans le samedi saint, elle qui avait été unie dans son âme et dans son corps avec Jésus par le Saint-Esprit, montrer pendant le samedi saint combien elle avait souffert, hein, et combien elle avait hâté la résurrection de notre Seigneur, et que c'était la première qui en avait été bénéficiée, justement, par son agonie même. Il a dû y avoir comme une agonie nouvelle de Marie, différente, mais nouvelle quand Marie découvre que l'univers est sans Jésus. Que Jésus n'est plus dans cet univers, hein, qui a quitté, que réellement, au fond, il n'y a plus de communication directe avec lui. Vous voyez, bon. Et alors, elle est bien abandonnée, elle a confiance, hein, elle fait confiance au Saint-Esprit, vous voyez, mais il y a une sorte de supplication silencieuse. Vous voyez, il y a certaines agonies que chez Marthe Robin ont trouvé, qu'on trouve souvent chez les saints. Des agonies, je dirais silencieuses, vous voyez, où celui qui bénéficie de cette agonie sent très bien que c'est une grâce de Dieu. C'est très douloureux, c'est une agonie. C'est une grâce de Dieu, peut-être abandonné, peut-être confiant pour attendre. Mais elle restait dans le silence. Silence de la parole, mais encore davantage le silence de l'imagination. Il ne faut surtout pas chercher une explication, pas chercher à dire pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Non, bon, mais rester, mais que c'est une supplication. Parce que cette agonie même, vous voyez, comme l'agonie, les agonies qu'on a vues en Marie, qui a commencé avec l'angoisse de l'Annonciation, cette espèce de supplication. Eh bien, avant que la Pentecôte, vous voyez, Marie a joué ce rôle. Et Jean, vous les dites, pense que c'est lui qui a dû jouer un rôle de médiateur entre Pierre et les autres apôtres et Marie pour que tous se retrouvent avec Marie après que Jésus était monté au ciel. Enfin, Jean qui déjà avait eu comme un commencement de Pentecôte. Jean, tout de suite après, avait été revoir Pierre, tâcher de l'amener au sépulcre. J'en ai parlé au moment de Pâques. Alors, il nous faut voir comment est-ce que le Saint-Esprit va unir tous ces gens dispersés. Vous voyez, on a vu les deux premiers temps, enfin, le grand vent, et puis on a vu la situation de tous ces gens et comment ça avait été déjà préparé. Et comment l'absence même de Jésus, et la présence de Pierre comme chef, La présence silencieuse de Marie jouait déjà tout un rôle. Les gestes de Pierre dans l'élection de Matthias, c'était des manières de montrer son espérance, plus forte que simplement quand on avait travaillé ensemble. Vous voyez, c'est tout d'abord par la parole. Alors là, c'est là une des grandes grâces qu'on a demandé à la Pentecôte. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la parole qui vient à la fois de Jésus et de l'Esprit Saint. Il y a une nouvelle parole qui est donnée depuis la Pentecôte. C'est la parole des apôtres, c'est une parole toute différente de celle des prophètes. Vous voyez, cette parole, pour tâcher de voir comment, c'est tout d'abord une parole qui établit une confiance réciproque entre eux. Une parole qui va exclure la jalousie et l'envie. Et qui va être d'autant plus forte que justement ces apôtres vont ensemble être chacun d'eux très fidèles au Saint-Esprit, donc jouer chacun sa note, dire la parole que Dieu veut, mais en étant tous ouverts aux paroles des autres. Et ce petit groupe apostolique où on sentait les dangers de jalousie, le Saint-Esprit est égale. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Prenez les séances au Parlement, prenez les congrès de médecins ou de psychiatres. C'est pas toujours très facile que les gens s'écoutent l'un l'autre. C'est pas toujours facile, surtout qu'ils se comprennent. Vous voyez, qu'il y ait une certaine unité qui en sort. Et très souvent après, c'est des batailles, c'est des oppositions. Bon, pour les journalistes, c'est très facile de présenter les choses, mais ce n'est pas très constructif. Vous voyez, cette parole, vous voyez, qui est donnée par le Saint-Esprit, elle établit une confiance réciproque et qui fait découvrir que les gens vont se corriger l'un l'autre et vont se compléter l'un l'autre. Vous voyez? Alors, si nous avons un petit peu de temps tout à l'heure, nous le dirons encore, mais tout de suite, vous voyez, cette parole, elle va être donnée par la sainte prédication. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une parole qui éclaire, ce n'est pas simplement une parole qui fortifie, c'est une parole qui donne la présence de Jésus. Et c'est une parole qui permet à ceux qui sont là d'être présents les uns aux autres. Et ça, c'est le mystère de la sainte prédication. Une parole qui unifie. Vous voyez, le rôle de l'apôtre dans la sainte prédication n'est pas d'abord d'éclairer. Il éclaire, mais il y a quelque chose de plus profond. Ce n'est pas d'abord de fortifier, vous voyez, comme un moraliste, d'entraîner. C'est le Saint-Esprit qui doit entraîner. Il y a quelque chose de plus profond. C'est une parole qui doit unifier. C'est une parole qui doit aider ceux qui sont là à être en la présence de Jésus et à la présence de l'Esprit Saint par le baptême en même temps. Et que dans cette présence de Jésus et de l'Esprit Saint, en même temps, ça n'est que les personnes sont présentes les unes aux autres. Et bien ça, c'est le grand mystère. Vous ne pouvez pas être en présence de Jésus et de l'Esprit Saint, voyez, et être un individu séparé des autres. La présence de Jésus et de l'Esprit Saint fait que vous vous compénétrez. Et que vous vous compénétrez sans confusion. Dans un respect mutuel. Que chacun, en étant sa propre personne, mais comme par un don de Dieu, et en perdant sa personnalité psychologique, en redevenant une personne nouvelle, se trouve par là même aider l'autre à être personne. Et là que ces personnes s'unissent entre elles, vous voyez, et forment une communauté d'un seul cœur, d'un seul esprit. Et ça, c'est comme le mystère de la sainte prédication. C'est tout à fait que saint Paul a exercé dans les Actes, on le sent. Tout à fait le contraire des rhéteurs. Parce que, en même temps, vous voyez, cette parole, elle vous rend libre. Le vrai prédicateur de l'Évangile, Ce n'est pas celui qui séduit les gens, pas celui qui les manipule, c'est pas celui qui, par son art, en quelque sorte, vous voyez, au fond, les subjugue. Ah oui, il y a une manière artistique, une manière séduisante de parler, mais qui ne rend pas les gens libres. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, quelquefois, ça peut être une parole d'un prophète, des fois. Hein? Mais ce n'est pas, depuis que notre Seigneur est venu, la vraie parole apostolique. Vous voyez, quand je dis c'est la parole d'un prophète, le bon Dieu peut s'en servir un petit peu pour le prophète. Et Jean-Baptiste prêchait de façon tout à fait différente de Jésus. Hein? Vous voyez, mais la vraie prédication, la sainte prédication, vous voyez, c'est cette prédication où quand vous l'entendez, vous vous sentez plus libre. Vous voyez, parce que, au fond, elle vous unit à Jésus, par et dans l'Esprit Saint. Donc c'est de l'intérieur qu'elle vous unit à Jésus. Vous voyez, il y a une inspiration qui donne à cette révélation son sens. Donc ce n'est pas une simple révélation objective, quelque chose qu'on vous impose de l'extérieur. Non, c'est quelque chose qui vous révèle à vous-même. Au fond, c'est pour ça que le pape insiste toujours, vous voyez, que le service de Dieu rend libre. Vous voyez, la parole de Dieu nous donne cette liberté. Et cette liberté à chacun de nous par rapport à celui qui nous donne la parole. Et entre nous qui écoutons la parole de Dieu. Vous voyez, ça, c'est l'effet de cette sainte prédication. Vous voyez ça. Et alors, qui crée en même temps une fraternité nouvelle. Au fond, il y a une nouvelle famille qui s'établit là. Hein, qui n'est plus une famille selon la chair et le sang seulement, mais une famille selon la parole de Dieu. Une famille qui, par le fait même, est spirituelle. Vous voyez, frères et amis, ça va de pair. Parce que ce sont des frères, mais qui savent très bien pourquoi ils sont amis en même temps. Hein? Ils sont en même temps unis par le cœur. Vous voyez? Bon. Mais le Saint-Esprit ne les unit pas seulement par la parole. Vous voyez? Quand vous voyez dans les Actes des Apôtres, hein, on parlera des sacrements. Mais là, il y a aussi un mystère qui... Parce que, vous voyez, la Pentecôte, elle se prolonge jusqu'au retour de Jésus. Si bien que dans cette Pentecôte, tout est donné immédiatement, comme dans un instant éternel, et puis en même temps, il va y avoir un progrès. Hier, il me semble que si nous voulons bien tâcher de comprendre cette Pentecôte, tâchez de voir aussi le rôle des sacrements. Il y a la parole. Mais dans l'Église de Jésus, il n'y a pas que la parole. Au fond, notre évêque notait très bien que si le prophète donnait la parole dans l'Ancien Testament, il dit dans le Nouveau Testament, la parole s'est fait chair. Et les sacrements, et l'Eucharistie en particulier, et il me fait comprendre comment cette parole, elle va s'incarner, elle doit s'incarner dans nos vies. Hein? Vous voyez, parce que c'est le mystère des sacrements. Mais ici, il me semble que c'est très important de voir le rôle de Marie et le rôle de Jean. Vous voyez, moi je suis, enfin, on ne peut pas l'affirmer absolument, mais je crois que la première Eucharistie qui a été célébrée, l'être initiative de Saint Jean. Et en fond, si c'est Pierre qui a réuni pour Matthias, et quand le Saint-Esprit a été donné, je crois que la première Eucharistie, c'est Saint Jean qui l'a célébrée. Et je crois qu'il l'a célébrée d'abord, avant tout, pour Marie. Alors là, est-ce que c'est Marie qui l'a demandé à Jean? Est-ce que c'est Jean qui a découvert? Moi, je crois plutôt que Jean, en voyant tout ce monde en fait, et lui-même, et les apôtres, au fond, dans l'émerveillement vis-à-vis de cette parole nouvelle qui leur a été donnée, enfin, qu'en même temps, tout ce que Jésus avait, bon, tout apparaissait, au fond, sous un jour nouveau, enfin, que des choses, le sermon sur la montagne, par exemple, les béatitudes évangéliques, tout ça qui restait pour eux, assez confus, comment est-ce que tout ça peut coïncider, qu'à ce moment-là, tout apparaissait dans l'unité. Bon. Mais qu'en même temps, Jean remarque que Marie, elle reste toujours comme on l'a dit. Oui, parce que Marie avait le Saint-Esprit depuis l'Annonciation. Les paroles de Jésus, elle les avait pleinement comprises. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin, Marie? Elle avait besoin de l'Eucharistie. Elle avait besoin que Jésus lui soit rendu, mais le Jésus de l'Ascension lui soit rendu. Et c'est ce Jésus de l'Ascension qu'elle en avait besoin plus que tous les autres. C'est bien que la Pentecôte des pauvres, la première Pentecôte, elle, celle qui a été mère des pauvres, mais elle a commencé à être par la plus pauvre elle-même, celle qui était la plus agonisante. Parce que dans son être, tout son être, dans son corps même, la maternité divine avait tellement tout changé en elle qu'elle ne pouvait pas vivre sans Jésus. Non. Et qu'elle avait comme besoin que Jésus lui soit rendu. Et alors je pense que c'est là que le jour de la grande grâce, il faut demander à la Pentecôte, que Marie et Jean nous fassent comprendre la place de l'Eucharistie dans l'Église et la place de l'Eucharistie dans nos vies. Parce que dans l'Eucharistie, c'est bien sûr, c'est le Jésus de l'Annonciation qui est donné à Marie. C'est bien sûr, c'est le Jésus de la Pâque, de sa mort et de sa résurrection. Mais c'est aussi le Jésus de l'Ascension. Parce que Jésus, tête du corps mystique, c'est bien Jésus qui est à la droite du Père. Jésus à la droite du Père, c'est Jésus qui a cette puissance du Père, cette puissance du Père sur tout l'univers, sur toutes les forces naturelles et sur tous les esprits, et surtout par rapport aux démons. Vous voyez, et cette force, cette puissance, mais avec son mode maternel, et comme Tertullien disait de Dieu, il est comme un Père. Vous voyez, cet univers a été fait comme un sein du Père. Vous voyez, cet univers a des forces extraordinaires. Mais c'est le Père le plus tendre. Vous voyez, la toute-puissance de ce Père, pour la comprendre, elle dépasse toutes les autres puissances avant tout l'intérieur, par la douceur. Le mystère de cet ordinateur, c'est qu'il est le plus simple. Il est moins compliqué. Vous voyez, qu'il est le plus sensible au plus faible, au plus pauvre. À ceux qui n'ont que l'intelligence du cœur, un tout petit peu d'intelligence. Mais l'intelligence que le cœur donne nécessairement. Bon. Alors, Marie, là, elle est vraiment la fille du Père la plus pauvre. Et la fille du Père. Vous voyez, l'orpheline de Jésus, vous voyez, la veuve, vous voyez, elle représente tout cela, Marie. Et elle est de nouveau en agonie. Vous voyez, et elle a dû supplier Jean, dire, donne-moi l'Eucharistie. Allez, tu as maintenant, Jésus t'a donné le pouvoir. Il t'a dit d'attendre, tant que le Saint-Esprit ne serait pas venu. Maintenant, donne-moi Jésus. Et que pour Jean, la grâce extraordinaire qu'a eu ce jour de la Pentecôte était en même temps d'expérimenter la parole, mais de voir comment Marie a vécu cette première Eucharistie de façon mystique, que Marie a retrouvé vraiment vie. Pour elle, ça a été vraiment le viatique. Enfin, que Marie a retrouvé une force dans cette Eucharistie pour pouvoir demeurer encore pendant un long temps sur la terre. C'est pour elle que ça a été d'abord ce viatique. Vous voyez, et que Jean a senti en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le ministère du prêtre, Mais parce que là, elle était vraiment prête pour Marie. Parce que là, vraiment, Marie a eu besoin de Jean. Non pas pour le sacrement de pénitence, non pas pour le sacrement de baptême, de confirmation. Mais elle a eu besoin de Jean pour lui donner l'Eucharistie. Pour que Jésus lui soit donné. Vous voyez, et Jean a saisi en même temps que c'était ça sa mission la plus grande, mais qu'il ne pouvait remplir. Alors là, il a compris très bien pourquoi Jésus avait lavé les pieds de ses apôtres. Pourquoi il avait dit, surtout ne soyez pas comme des maîtres. Bon, vous avez bien à présider, mais à présider dans l'amour. À présider comme moi-même, je vais présider mon Église. En étant le roi d'amour dans cette église, qui meurt dans cette église, qui édifie son église, parce que c'est le mystère de l'Eucharistie. Vous voyez, dans l'Eucharistie, Jésus est là. Vous voyez, c'est Jésus de l'Ascension. C'est Jésus qui, par le fait même qu'il est à la droite du Père, qui est tête du corps mystique, avec tout ce que comporte le mot tête. Vous voyez, qui est en même temps cœur du corps mystique. Vous voyez, parce que les pères de l'Église nous disent bien, les sacrements viennent du côté de Jésus. Mais ils viennent du côté de Jésus, ils restent reliés à ce côté de Jésus. Vous voyez, nous sommes des petits sarments qui sommes plantés dans le cœur de Jésus. C'est là notre terre. Vous voyez, et c'est de là que vient toute la force pour nous, de l'eau et du sang qui sort du cœur de Jésus. Vous voyez, bon, nous, Jésus dans l'Eucharistie, c'est bien lui qui est aussi cœur de l'Église. Et c'est lui en même temps qui est source de vie. Parce que dans cette Église, elle a à vivre de la vie éternelle. Donc elle a absolument besoin de cette source, mais qui la rattache tout de suite immédiatement au Père, au ciel. Il n'y a pas une coupure entre le ciel et nous, par Jésus. Alors, vous voyez ce très, très, très grand mystère. C'est-à-dire que si nous voulons comprendre le mystère des sacrements et le voir dans le lien très fort avec le mystère de la parole, vous voyez, c'est ici que nos pauvres, pour les prêtres, apportent énormément. Pour vous, ils doivent vous apporter aussi beaucoup. Mais pour le prêtre, il l'expérimente. Qu'est-ce qui est très frappant, point de vue de la parole ? Que ce que comprennent le mieux nos handicapés, c'est les noms de personnes. C'est tout à fait autre chose. Ils font plus ou moins d'attention si on parle de Dieu. Si on parle du Père, ça touche plus que leur cœur. On parle de Jésus. Si vous parlez du Christ, ils ne touchent pas beaucoup. Le Seigneur, c'est un terme un peu abstrait, le mode, non, c'est pas ça qu'il faut parler de la personne. Du petit nom qui donne tout de suite la personne, Jésus. Vous voyez, il faut parler en même temps de la Sainte Vierge. Si on dit la Vierge, non. Vous voyez, il faut parler du Saint-Esprit. Parler de l'Esprit, ça paraît très abstrait. Mais le Saint-Esprit, en fait, c'est une inspiration personnelle, personnifiée, c'est une personne. Vous voyez, alors, vous découvrez que ces noms révélés, ça a quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce sont des noms qui vous permettent en même temps de vous purifier terriblement de l'imagination et de la mémoire. Comme je disais que c'était si nécessaire actuellement. Et puis qui en même temps vous donnent comme des points stables, comme des points qui vous attirent. Et que nous avons besoin pour ne pas rester dans le vague. Quand le Saint-Esprit nous attire à lui très fort, surtout si c'est dans des moments un petit peu qui demandent un espèce d'arrachement, et donc il y a une espèce d'angoisse, ces moments, nous avons besoin de nommer l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de nommer Jésus. Nous avons besoin de nommer Marie. Nous avons besoin de nommer le Père. Vous voyez, et ces noms fortifient notre foi et notre espérance. Vous voyez, alors on découvre comment il y a des noms qui ne sont pas des noms symboliques. Un symbole, ce n'est pas une représentation. Le petit enfant n'est pas capable encore d'avoir une représentation. Et dans l'expérience mystique, comme dit Saint Jean de la Croix, il faut que nos facultés de raisonnement et nos facultés d'imagination soient endormies. Hein? Mais dans ce sommeil divin, ces noms-là ne viennent pas du tout nous faire sortir de ce sommeil divin, mais nous empêchent au contraire, vous voyez, de divaguer un peu, hein? Et nous défendent contre le démon. Vous l'avez souvent dit, mais c'est tellement important, demander au Saint-Esprit qu'il nous fasse comprendre. Vous voyez, dans les moments de prière, par exemple, vous êtes près du Saint-Sacrement, ou dans les moments de prière, le soir, avant de vous endormir, n'importe quand vous reposez, n'importe quoi, dans les moments de prière, bon, il y a des moments, quelquefois, où on peut sentir un petit peu des forces en nous qui s'éveillent, n'importe quoi. Vous voyez, c'est le grand danger de yoga, c'est le grand danger de la relaxation, c'est qu'on ne sait pas trop quelle force on réveille, qui s'éveille en nous. Un chrétien, c'est tout simple. S'il prononce le nom de Jésus, prononce le nom de l'Esprit Saint, se remet très profondément entre les mains de l'Esprit Saint, il appelle Marie comme la reine. Bien, quand c'est, les choses sont douteuses et ambiguës, ça les fait cesser. Tandis qu'au contraire, quand elles viennent de Dieu, elles s'accentuent. Et c'est par là le critère. C'est par ces noms divins qui se fait. Et puis alors en même temps, il y a quelques verbes dans l'évangile, et quelques adjectifs, mais qui sont presque dans des verbes en même temps, c'est le verbe aimer. Hein? Et surtout le verbe de se laisser aimer. Voyez, parce que c'est ça le grand mystère de l'amour. Hein? C'est tout à fait différent du bien. En philosophie, on n'a rien qui peut rendre compte de ce que c'est que l'amour comme tel. Vous voyez, l'amour qui implique qu'on est aimé d'abord, on est d'abord bien aimé. Maintenant, on dit tellement que les gens sont mal aimés. On emploie tellement ce mot-là. Prenons le terme de Saint Jean, aussi, et moi de temps en temps le dis, mais bien aimé. Et on peut être bien aimé à la fois comme un petit frère. Jésus peut nous aimer comme frère ou comme sœur, si bien qu'il nous donne pleinement son amour. Au fond, et nous pouvons être bien aimés comme les enfants du Père, non, les tout petits enfants dans le sein du Père, et nous être les bien aimés du Saint-Esprit, parce que tout ça c'est dans le Saint-Esprit. Vous voyez, donc ce mot bien aimé, ça voilà un mot chrétien par excellence. Vous voyez. Et quand le pape aime dire, bien sûr il faut que vous aimiez Dieu, bien sûr il faut que vous soyez les amis de Dieu, en voulant tout faire sa volonté. Et là, la philosophie dit très bien. L'ami, c'est celui qui fait la volonté de l'autre, de celui qu'il aime. L'idem velle. Mais dans le langage chrétien, il y a quelque chose qui dépasse l'idem velle. Au fond, c'est cette facilité d'amour, de se laisser aimer. Et comme le pape dit, surtout laissez-vous aimer par Dieu. Surtout laissez Dieu vous apprendre à aimer en vous aimant. Laissez cette présence de Dieu s'intensifier en vous. Et alors, comment est-ce que le Saint-Esprit, alors c'est là qu'on découvre, vous voyez, qu'est-ce qui a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, surtout, cette personne du Saint-Esprit. Et comment est-ce que cette personne du Saint-Esprit se révèle? Vous voyez, tout à l'heure à propos de l'inspiration, c'est une inspiration personnelle. C'est que le mot amour, pour quelqu'un qui n'a jamais connu le Saint-Esprit, ça reste finalement un terme un petit peu abstrait. Parce qu'il y a deux exigences dans l'amour qui ne sont jamais conciliées dans l'amour humain. Un amour, pour vraiment avoir sa dignité, il ne faut pas qu'il soit égoïste. Il ne faut pas qu'il soit exclusif. Il ne faut pas qu'il y ait au fond des espèces de jalousie ensemble. Il ne faut pas, on sent très bien que quand on a un amour seulement fermé, en quelque sorte, plus l'amour. Et puis d'autre part, il y a une intimité dans l'amour. L'amour, ce n'est pas abstrait, c'est existentiel au possible. Qui font que l'amour pour le si le philosophe réfléchit, il dit, je ne vois pas comment, en dehors de Dieu, je ne vois pas comment ça peut se trouver. Et Dieu, je ne sais pas du tout comment Dieu s'aime. Parce que si Dieu il est simplement l'exonéré celui saint, comment est-ce qu'il peut y avoir de l'amour? Parce que ça demande deux personnes. Voilà ce que Jésus est venu nous révéler. Vous voyez? Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit se révèle en nous? C'est comme l'amour personnel. C'est comme au fond, le comme je vous disais en même temps, que l'inspiration personnelle. C'est comme cette sorte de motion, de force, mais de force qui vient d'une personne. C'est vrai, quand vous avez un ami à côté de vous, ben, ça vous aide un petit peu, non, ça vous stimule un petit peu. Sa présence, c'est un certain soutien. Oui, ça reste au fond très vague tout de même. Et puis une fois que vous connaissez certaines angoisses, vous dites, ben, il est bien à côté de moi, mais enfin, il ne saisit pas le fond de mon cœur. Tandis que le Saint-Esprit, ben, lui, c'est cette force, mais cette force qui est une personne. Cette force intérieure, alors qui est force et amour en même temps. Ben, et au fond, qui fait découvrir comment le mot personne parle de sens finalement qu'avec l'amour. Ben, alors c'est quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, quand vous voyez que dans le langage chrétien du début, le mot persona, c'est un mot qui existait en latin. Le persona, c'était le personnage qu'on jouait dans les comédies. Non, vous en êtes très jolis. Et de temps en temps, les gens avaient besoin, en quelque sorte, de sortir de la monotonie de la vie extérieure pour se donner un personnage. On jouait au roi, on jouait même au dieu parfois. On jouait, en fait, au fond, pour un temps, un petit peu, on était en dehors, on sortait de toute cette monotonie. Au fond, bon, on jouait un personnage, on regardait des gens qui jouaient un personnage. Et puis voilà, que le Saint-Esprit est venu nous montrer que ce mot persona, c'était le terme le plus mystérieux. Qu'il y avait le mystère de Dieu, c'était des personnes qui s'aimaient. Et des personnes qui communiquaient les unes aux autres. C'était un père qui engendrait un fils, mais qui l'engendrait non pas par nature, non pas par nécessité de l'intelligence, mais par son amour, inspiré par son amour. Et que nous étions appelés à devenir ses fils et ses filles bien-aimés du Père. Et alors que finalement, tout ce langage que Jésus était venu, vous voyez, dépasser tout le point de vue des paraboles, en parlant tout simplement de son Père et de l'Esprit Saint. Et c'est tellement frappant dans Saint Jean. Dire au fond, tout se rattache finalement au Père et au Saint-Esprit. Il y a simplement ces trois personnes. J'ai baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, voilà le Saint-Esprit, vous voyez. Quand vous nous êtes donné à la Pentecôte, pleinement, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous est donnée. Comment ça se révèle? C'est cette force intérieure, mais qui est une personne. Alors, qu'on est tout tranquille. Vous pouvez être en angoisse très forte, vous dire, en fait, au fond, ça ne va plus du tout. Et je vois plus, mais tout croule autour de moi. Et après, en imagination, mais je suis pris dans un tourbillon après tout. Et quelquefois, ça peut s'ajouter de choses extérieures. Vous pouvez avoir, au fond, quelquefois, quand vous êtes faible, quand, au fond, par le fait de la tension artérielle ou autre chose, parce que dans votre lit, vous avez l'impression que c'est un bateau ivre, n'importe quoi. Bon, vous voyez, bon. Et puis, le Saint-Esprit qui vous prend dans son amour, et que si vous êtes fidèle, vous dites, ben après tout, je suis dans un bateau ivre. Mais tout de suite, le Saint-Esprit qui me prend dans son amour, si je reste fixé sur le Saint-Esprit, c'est peut-être la mort, ben après tout, la mort, c'est un gars. Ben, il vient peut-être me prendre, c'est peut-être fini de cette vie, cette pauvre vie. Bon, c'est un gars. Vous voyez, et que dans la mesure où vous vous accrochez au Saint-Esprit, et vous accrochez en vous laissant prendre, vous voyez, et vous tâchez de veiller à cette pauvre curiosité qui revient toujours. Vous dites, ah oui, mais après tout, je voudrais voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, et alors ça ne va plus du tout. Hein, tandis que si vous vous laissez bien prendre par le Saint-Esprit, vous dites, tout d'un coup, voilà toutes ces tempêtes extraordinaires qui déparagent avec une rapidité extraordinaire. Hein, et puis, vous retrouvez une paix que vous n'avez jamais connue. Réellement, jamais connu. Parce que vous découvrez que les angoisses que vous avez eues avant, on vous ont labouré, on fait connaître qu'il y avait en vous toutes sortes de capacités encore plus profondes qui n'avaient pas été exploitées, mais que maintenant tout cela redevient transparent. Tout cela
vous voyez, liquéfié, mais incandescent par le feu de l'Esprit Saint, hein, mais dans une douceur très très forte, parce que c'est ça qui vous unit au Saint-Esprit. Et puis que quand le Saint-Esprit vous parlez de Jésus et du Père, et puis quand vous parlez des cieux nouveaux et des terres nouvelles, ben, avec Jésus à l'intérieur, mais tout ça, ça, au fond, ça, au contraire, tout ce qui était objet de crainte se trouve être transformé par le Saint-Esprit. Parce que vous voyez ce mystère, il faut nous demander comment nous avons à vivre notre Pentecôte. Hein? Alors vous voyez comment la Pentecôte, telle qu'elle a été vécue par les apôtres, mais surtout par Jean et avec Marie, avec l'Eucharistie, ça reste bien cette fête d'action de grâce, mais qui a au centre le sacrifice eucharistique.